11h midi. La Sarthe se découvre sur France Bleu Maine. Emmanuel Bordeaux.
Bonjour à tous. Il y a 6500 ans, les premiers paysans s'installaient sur le plateau de Grès-sur-Roc. La fondation Jean Jouze propose des animations autour de ce site majeur de la période néolithique, avec notamment l'allumage du feu et l'initiation au lancer de sagaies, comme du temps des hommes préhistoriques. On commence dans quelques instants avec la visite du musée, en compagnie d'Alain Gossard, c'est le président de la fondation Jean Jouze. A tout de suite.
11h midi, Sarthe découverte sur France Bleu Maine.
And where I go, but it is so hard
l'après-midi, le dimanche, la Sarthe se découvre sur France Bleu Maine. Emmanuel Bordeaux.
Nous sommes à Grès-sur-Roc et on va rentrer dans l'espace Jean Jousse avec le président de la fondation Jean Jousse, c'est Alain Gossard. Bonjour.
Bonjour.
Alors on va rentrer dans ce petit musée tout de suite avec vous. Qu'est-ce qu'on découvre dans ce musée ?
Alors ce musée, il a été créé par la commune pour renvoyer l'histoire récente des 10 années de fouilles qui ont eu lieu à Grès-sur-Roc depuis 2003. Dans ce musée, on va trouver des éléments de compréhension de ce que ont pu découvrir les archéologues et de l'objet de leur recherche. On a donc à la fois un ensemble de vitrines, de panneaux explicatifs et aussi de moyens audiovisuels pour permettre d'appréhender la période concernée, c'est-à-dire la période néolithique qui nous emmène il y a environ 6500 ans.
Voilà. Grâce à un personnage très important, c'est Jean Jousse. C'est grâce à lui si on a découvert ce site. Hein.
Oui, absolument. Jean Jousse, c'est donc l'inventeur au sens propre du site archéologique. Pendant une trentaine d'années, il a recueilli du mobilier archéologique sur le site. C'était pas évident pour lui, d'ailleurs, parce qu'à l'origine, il cherchait les traces d'une mode castrale, c'est-à-dire une construction du début du Moyen-Âge. Et puis, derrière le Brabant de la charrue de l'agriculteur qui cultivait le champ, il a découvert des silex. Alors, découvert des silex dans un champ, ça n'a rien de très original. Sauf que à Grès-sur-Roc, la géologie est particulière. Il n'y a sur ce plateau que du sable et des blocs de grès. Et donc, la présence de ces silex supposait qu'ils avaient été importés. Et très vite, Jean Jousse s'est aperçu que là, il était face à des silex qui dataient de la préhistoire. Et c'est comme ça qu'au fond, petit à petit, avec différents événements qui se sont succédés, eh bien, ça a intéressé des universitaires qui sont venus débuter des fouilles sur le plateau de Grès-sur-Roc.
On va regarder quelques objets un peu emblématiques qui ont été retrouvés sur le site. Alors en effet, beaucoup de silex taillé, ça.
Voilà, tout à fait. Alors on a à cette époque-là, comme bien avant dans la préhistoire, beaucoup l'utilisation donc de silex qui ont l'intérêt d'être très tranchants. Donc on a des petits outils, par exemple dans cette vitrine. Mais surtout, ce que vous apercevez, c'est l'outil emblématique du néolithique. Les néolithiques, ce sont des paysans, mais sont aussi des bûcherons, c'est-à-dire grands consommateurs de bois. Et ben, un bûcheron, son outil, c'est la hache. Hein. Et la hache que vous avez sous les yeux, cette hache noire là, qui fait partie de la collection de Monsieur Jousse, c'était ce qui permettait d'abattre les arbres. Donc voilà, c'est une hache polie. Donc la hache polie, je répète, c'est l'outil emblématique de l'époque néolithique. On n'en trouve pas avant, et bon, à cette hache polie succédera ensuite les haches en métal, hein, en cuivre, en bronze, et puis ensuite en fer. Hein.
On se retrouve dans quelques instants sur France Bleu Maine, ici à Grès-sur-Roc. Nous sommes à l'espace Jean Jousse avec Alain Gossard. C'est le président de la fondation Jean Jousse. À tout de suite.
France Bleu. Ça vaut le détour, du lundi au vendredi, de 17h à 19h. À la rencontre des associations culturelles et sportives.
L'haltérophilie, qui reste l'un de nos sports de prédilection.
Explorons la Sarthe, son patrimoine, son environnement.
L'animal va traverser une ligne, voire une deuxième, et partir en plaine.
Les films à ne pas manquer, toute l'actualité du web et les coups de cœur de vos libraires.
C'est un livre qui reste parce qu'il est éminemment sympathique, ce livre.
Ça vaut le détour, du lundi au vendredi, de 17h à 19h, sur France Bleu Maine. Écoutez, on est bien ensemble.
Merci à vous.
Eh bien, écoutez, super. Oh, génial.
Je remercie France Bleu, et puis continuez comme ça, il n'y a pas de problème, hein. Vous êtes les plus forts.
France Bleu Maine, votre radio, ici, pour vous. France Bleu Maine.
Devant moi.
café serré au comptoir en bois. Je prends la rue des Canettes, je reviens à toi. Le passé, les courants d'air, les mots d'autrefois, de Villon d'Apollinaire, trotte dans le froid. Au sortir de mes pensées, je passe la Seine sur le pont des Argevins. Sans ma peine, comme le vent dans la plaine, la nuit sur les toits. Que cette ville est jolie, en disant cela, ton visage m'apparaît, je reviens à toi. Voilà une journée qui traîne, un peu à mon bras, un nuage dans sa traîne, c'est la vie qui va.
Compagnie du président de la fondation Jean Jousset, Alain Gossard, sur l'espace du même nom ici à Grès-sur-Roc. On parlait il y a quelques instants de cette hache. Ça, c'est pas une hache et un silex poli qu'on a trouvé sur le site, c'est un fac-similé, ça.
Absolument. Alors, pourquoi ? Bah, simplement parce que l'espace Jean Jousset n'est pas un musée au sens strict du... Donc, il n'a pas la possibilité de pouvoir conserver du vrai mobilier archéologique. Et donc, les archéologues en ont profité pour se livrer à une activité très importante en recherche archéologique, c'est-à-dire ce qu'on appelle l'archéologie expérimentale. Alors, c'est quoi l'archéologie expérimentale ? Eh ben, en l'espèce, là, si j'ai un silex et si je suis capable de faire moi-même une hache polie, il faut ensuite expérimenter et voir comment on pouvait utiliser cette hache et quelle pouvait être sa fonction. Ça pouvait être, je ne sais pas moi, une arme, est-ce que c'était un outil, et donc il faut se colter à la réalité, c'est-à-dire prendre un arbre et puis avec cet outil essayer autant que faire se peut de couper cet arbre.
C'est ce qu'on retrouve dans cette vitrine. Donc l'arbre qui a été coupé par cette hache qui a été reproduite. Hein.
Absolument. Là, on a une branche et sur cette branche, on voit très bien les marques des coups de hache. Et là, la hache qui est à côté a été emmanchée avec un emmanchement en bois. Et ensuite, elle a été utilisée pour couper du bois.
Et ce qui est étonnant, voilà, c'est que du coup, ça, c'est une pierre polie et qui a pas l'air tranchante. Mais alors, ça fonctionne en tout cas parce que ça coupe une branche quand même d'un bon diamètre déjà. Là.
La forme de l'arche, la forme extrêmement symétrique de l'arche, lui permet d'absorber l'onde de choc sans exploser, sans casser le tranchant. Hein. Et donc, le polissage qui peut paraître moins coupant, et ben paradoxalement. Il va donner de la dureté à l'outil et lui permettre de pouvoir fonctionner suffisamment longtemps. Alors, c'est quand même intéressant parce que Une hache polie, il faut un certain temps pour la fabriquer. Hein. Il faut évidemment choisir le silex. Tous les silex ne conviennent pas pour polir un outil. Il faut ensuite être suffisamment expert pour la tailler de manière très symétrique et ensuite la polir. Et on fait ça sur un bloc de grès qu'on appelle un polissoir. Et on va frotter avec de l'eau le temps qu'il faut pour rendre cet outil quasiment parfait. Comme vous pouvez voir, là, c'est un outil expérimental, très récent et il est magnifique. Hein.
Alors par contre, dans cette boîte-là, on retrouve vraiment des silex qui ont été trouvés hein, sur le site, sur la motte. Hein.
Voilà, alors ça c'est un peu notre matériel pédagogique, c'est-à-dire que à partir de ces éléments trouvés après le recouvrement à la fin des fouilles, eh ben on invite les enfants par groupe de 3 ou 4 à observer, à manipuler du mobilier archéologique qui est composé de fragments de silex et d'outils d'ailleurs indifféremment.
Ça c'est un outil là,
le racloir est un outil qui est utilisé dans la préhistoire depuis très très longtemps et notamment à l'époque paléolithique, même l'époque paléolithique ancienne. Hein.
Oui, je vous avais dit qu'on essaierait d'allumer un feu comme un homme préhistorique, et bien c'est ce qu'on va faire dans quelques minutes avec Alain Gossard. C'est le président de la fondation Jean Jousse, ici à Grès-sur-Roc. A tout de suite.
Definite line, cutting a dash, cutting it fine. And once, only once, did I lose control. I gave her my soul, and I gave, and I gave, and I gave her my soul. Till today.
France Bleu Maine, 11h midi, Sarthe Découverte.
Nous sommes à Grès-sur-Roc ce dimanche en compagnie d'Alain Gossard, le président de la Fondation Jean Jousse. On parle de la préhistoire et on se souvient tous un peu de nos cours à l'école où on nous disait que voilà, on allumait le feu à l'époque avec deux silex. Eh bien, c'est pas vrai du tout ça, Alain Gossard.
Alors non, c'est pas vrai. Alors c'est aussi ce que j'ai appris à l'école. Hein. Alors quand on frappe sur deux silex, on fait effectivement une étincelle. Mais une étincelle qui a une durée de vie extrêmement courte, elle disparaît très vite, et elle ne permettrait pas de faire du feu. Sauf que ces deux pierres sont différentes l'une de l'autre.
Vous les avez dans les mains, là.
Voilà, je les ai dans les mains. Dans ma main droite, j'ai un silex classique, hein, comme celui qu'on peut trouver n'importe où, il a rien de particulier. Et dans ma main gauche, j'ai un bloc assez lourd, c'est une pyrite qui va donc produire une étincelle qui, elle, va avoir une durée de vie plus importante.
Que les deux silex de tout à l'heure.
Absolument. Et donc, le but du jeu, c'était de faire tomber cette étincelle sur un élément de nature à s'embraser ou à s'enflammer. Et cet élément, c'est très souvent un élément qui est extrait d'un champignon qu'on va trouver sur des arbres en fin de vie ou des arbres morts dans les forêts, hein, c'est extrêmement commun. Celui qui est sous nos yeux, il provient de la forêt de Vibray, c'est pas trop loin, hein. C'est un produit local. Et ce champignon, c'est l'amadouvier. Et à l'intérieur de cet amadouvier, on va découper des petites lamelles d'amadou, et l'amadou a la propriété de pouvoir constituer une braise et s'enflammer, enfin non pas s'enflammer, mais s'embraser très facilement, et de pouvoir conserver une braise assez longtemps.
Démonstration. Donc là, il y a cette lamelle de champignon.
Voilà. Alors je vais frapper donc mon silex. Vous allez voir que...
Ah, et là, il y a des étincelles, ouais, en effet, qui arrivent.
On voit quelques étincelles. Voilà. Alors, vous voyez qu'elles tombent.
Oui.
Elles tombent sur mon amadou. Alors, voilà. Là, ici, j'ai une étincelle qui est sur mon morceau d'amadou. Je vais souffler un tout petit peu dessus pour pouvoir l'aviver un petit peu, démarrer l'incandescence. Et puis ensuite, eh bien, on va faire un petit nid avec du foin.
Et l'incandescence reste dans le champignon, voilà, là.
Tout à fait. Alors, je vais recouvrir mon morceau d'amadou avec la braise au milieu, et je vais ensuite espérer souffler. Hein.
Ça prend assez rapidement.
Voilà, vous voyez qu'on voit de la fumée déjà.
Il y a de la fumée, ouais, c'est.
Et je vais placer l'ensemble dans une petite coupelle là en métal. Hein, c'est pas tout à fait de l'archéologie expérimentale. Et si je continue à souffler. Voilà,
c'est magique.
Une flamme.
Incroyable.
Et maintenant, mon foin va s'embraser.
Voilà. On va se retrouver dans quelques minutes. On va changer d'endroit. On va aller sur le site même où toutes ces découvertes ont été faites en ce qui concerne ce qu'on a vu tout à l'heure, les silex, les céramiques. Je vous dis à tout de suite. France Bleu.
À gagner cette semaine dans le jackpot de France Bleu Maine, votre centrifugeuse pour réaliser de délicieux jus de fruits ou de légumes 100% maison. Le jackpot.
France Bleu présente Dany Briand en concert. Ça swing, ça danse, ça rock. Dany Briand en tournée dans toute la France avec France Bleu et à Paris les 2 et 3 juin à la salle Pleyel. Dany Briand, une tournée France Bleu. Toutes les infos sur francebleu.fr.
Les mangeurs de lapins remettent le couvert à l'éolienne d'Arnage, jeudi 22 février à 20h30. Un cabaret burlesque version music hall au numéro de haute voltige totalement déjanté. Les mangeurs de lapins remettent le couvert, un spectacle de clown des temps modernes à l'éolienne d'Arnage, jeudi 22 février à 20h30.
Gagnez vos places en écoutant France Bleu Maine.
Thank you. J'étais sur la route toute la sainte journée. Je n'ai pas vu de doute en toi s'immiscer. J'étais sur la route toute la sainte journée. Si seulement j'avais pu lire dans tes pensées. Ouh, ouh, ouh. J'avais perdu l'habitude. Sur la route toute la fin de journée, je n'ai pas vu de doute en toi s'immiscer. J'étais sur la route toute la fin de journée. Si seulement j'avais pu lire dans tes pensées. J'étais sur la route toute la sainte journée. Je n'ai pas vu de doute en toi s'immiscer. J'étais sur la route toute la sainte journée. Si seulement j'avais pu lire dans tes pensées. Sur la route toute la sainte journée. Je n'ai pas vu de doute en toi s'immiscer. Car j'étais sur la route toute la sainte journée.
Se découvre sur France Bleu Mel. Emmanuel Bordeaux.
Après avoir quitté l'espace Jean Jousse, on a fait quelques hectomètres pour se retrouver ici sur le site proprement dit des fouilles de Jean Jousse, Alain Gossard.
Voilà, tout à fait, on est sur le site de la Motte. Alors devant nous, eh bien, on a un bâtiment qui n'a pas été recouvert à la fin des fouilles. Donc en 2012, on a souhaité rendre compte de ce qui s'est fait pendant ces 10 années de fouilles à Grès-sur-Roc. Et donc le bâtiment qui est devant nous, eh bien, c'est l'emplacement plutôt du bâtiment, puisqu'on ne voit que les traces au sol, bien entendu. Hein. C'est-à-dire ces blocs de grès qui ont servi d'en base aux poteaux qui eux-mêmes ont permis de construire un bâtiment dont évidemment on n'a pas les dimensions, hein, du moins pour ce qui concerne la hauteur, puisqu'on a simplement son emplacement au sol.
Qui est déjà très important tout de même. Hein.
Oui, ça fait, c'est disons une forme rectangulaire, pas tout à fait, un petit peu trapézoïdal, et ça fait une 20aine de mètres de long et une 10aine de mètres de large.
Alors quelles sont les hypothèses des archéologues? C'était un bâtiment d'habitation, une sorte d'endroit de construction, une usine j'ai envie de dire, ou on ne sait pas ça?
La question que vous posez est une question centrale. Est-ce que ce bâtiment était un bâtiment d'habitation? Est-ce que c'est un bâtiment qui a pu servir à stocker éventuellement des céréales, éventuellement, hein, puisqu'il avait un plancher, donc c'était le seul à avoir un plancher, ou bien est-ce que c'était aussi peut-être un bâtiment hybride dans lequel il pouvait aussi éventuellement y avoir une partie privée, si je puis dire, et puis une partie publique dans laquelle on pouvait faire du débitage de silex ou des activités de ce type. Hein.
Ah, ou ça, de taillage, oui.
Absolument. Donc là, ça fait partie des hypothèses sur lesquelles travaillent les archéologues et avec un certain nombre d'indices, ils seront peut-être capables de répondre à cette question.
Hein. En tout cas, ce qui est fascinant, voilà, c'est évidemment la qualité de conservation là, du grès, des trous qu'on y a fait à l'intérieur, et puis de l'intelligence des hommes de l'époque, hein, parce que on est sur un sol, vous le disiez tout à l'heure, sableux, donc c'est une sorte de fondation qui ont permis de construire ce bâtiment. Quoi.
Voilà, alors ce sont des blocs de grès qu'on va trouver en grande quantité sur le plateau, qui se situent à fleur de sol, hein, et puis qui ont été extraits de fosses juste à quelques mètres de nous, et déplacés. Alors vous allez me dire, on est à l'époque préhistorique, déplacer des blocs qui font 500-600 kilos, c'est très important, mais n'oublions pas que à la même époque, les mêmes agriculteurs du néolithique, eh bien, ils érigeaient à Carnac, par exemple, d'énormes mégalithes. Et donc, vous voyez qu'un bloc de 500-600 kilos, c'est pas grand-chose.
Par rapport aux tonnes qu'on voit, évidemment, sur les sites qu'on peut découvrir en Bretagne. Et ça reste encore des mystères aussi.
Ah oui, complètement. Enfin, pour les dolmens, on sait que là, on est face à des sépultures. Quant aux menhirs, ça reste un mystère qui est encore pas déchiffré. Hein.
On va se retrouver dans quelques instants. On va repartir sur le côté un peu ludique de ce que propose la Fondation Jean Jousse, ici à sur Roc, parce que vous allez m'apprendre à chasser à la sagaie. C'est bien ça, monsieur Gossard?
Eh bien, écoutez, on y va.
Eh bien, tout de suite. We'll be right back.
Bleu Maine, 11h30, Sarthe Découverte.
Nous sommes à Grès-sur-Roc et on va maintenant s'initier, grâce à Alain Gossard, le président de la fondation Jean Jousse, à la sagaie. Alors on dit sagaie, on s'imagine en Amazonie. Non, non, la sagaie, c'était une arme utilisée en période préhistorique, il y a très longtemps d'ailleurs, hein, pour chasser les animaux. Hein.
Voilà, alors là, on a fait une dizaine de mètres. Hein. On est maintenant sur l'aire de lancer du site de la Meute. Et on va, par contre, faire un grand bond dans le temps. Et on était, pour le néolithique, pour le bâtiment dont on a parlé il y a environ 6500 ans, et on va se propulser, si je puis dire, 15 000 ans avant ou 20 000 ans avant, et donc à une époque qui n'est pas celle des agriculteurs, hein, mais celle des chasseurs-cueilleurs, donc à l'époque paléolithique. Imaginons, sur ce plateau, il fait froid, hein, on est en période glaciaire. Et ces petits groupes, tout petits groupes d'hommes, vont chasser avec une arme qu'on a pu mettre en évidence, notamment dans le sud de la France, qui est constituée de deux éléments. Une sagaie, qui est une espèce de lance assez légère, avec un empennage, et puis une pointe en silex, et un propulseur qui va permettre d'augmenter la force du tir.
La puissance, d'accord. On est avant la mention de l'arc et de la flèche, là. Hein.
Oui, oui, tout à fait. L'arc et la flèche, on va dire que son invention est datée d'environ 10 000 ans, hein, à peu près. Ça dépend des endroits, mais c'est l'ordre de grandeur. Hein.
Alors, c'est parti pour la démonstration.
Je place le propulseur au sommet de la sagaie. Et puis ensuite, je vais placer la sagaie au-dessus de ma tête et je vais viser ma cible que j'ai à une quinzaine de mètres. Et ça y est, on est prêt.
C'est parti. Ah, bah, bravo. En tout cas, c'est planté. Pas dans la cible, mais à moins que vous visiez la bâche là dans la botte de paille.
Vous visez entre les deux cibles, bien entendu.
Mais en tout cas, on a vu en effet que ça augmentait énormément la puissance. Que si vous l'aviez lancé à la main, ça serait jamais planté. Parce que là, on est quand même à combien de mètres là ?
Là, on est pour le public, on est relativement près. On est à environ une quinzaine de mètres. Il faut savoir qu'il y a des compétitions hein, qui se font avec des armes primitives, et il y a des compétiteurs qui lancent et qui touchent la cible à plus de 60 mètres de distance. Hein.
En tout cas, voilà, on imagine voilà d'où l'utilité évidemment de cette arme.
Voilà, parce que si j'avais lancé ma sagaie sans le propulseur, je pouvais toucher la cible très vraisemblablement, mais en tout cas, elle n'aurait pas pénétré les blocs de paille de la même manière que celle que vous venez de voir. Vous voyez qu'elle est bien plantée, là, profondément. Hein. C'est le propulseur qui va jouer le rôle de levier et qui va donc lui donner la puissance dans le tir. Hein.
Si vous voulez en connaître un peu plus, eh bien, faut vous renseigner notamment sur Internet. Vous tapez Fondation Jean Jousse. Vous aurez un peu plus de renseignements. Merci à vous.
Merci de votre visite.